I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va particulièrement intéresser tous ceux qui se sentent souvent fatigués, épuisés et qui aimeraient retrouver toute leur énergie. Vous connaissez Jack, il était mon invité sur l'épisode 182 et vous aviez adoré l'épisode que j'avais fait avec lui. 90 000 vues sur YouTube, des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify, des chiffres hallucinants pour un épisode technique. Eh bien, figurez-vous que Jack, il a longtemps lutté contre la fatigue chronique, contre les coups de mou, contre cette sensation d'être constamment épuisé dans sa journée. Eh bien, devinez quoi, il a réussi à transformer sa vie en appliquant les bonnes méthodes et des techniques simples et efficaces. Et il a créé une formation qui est révolutionnaire et qui s'appelle 30 jours énergie. Elle permet de retrouver sa vitalité et sa motivation en seulement 30 jours. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de suivre ce programme de formation en intégralité. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant et extrêmement qualitatif. On y retrouve des techniques pour améliorer son alimentation, pour améliorer son sommeil, pour gérer son énergie. Et franchement, il y a des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines qui sont vraiment novatrices et je les ai découvertes au fur et à mesure de la formation. Et en plus, Jack, il explique super bien, il est passionné par son sujet et il transmet ça à merveille. Et aujourd'hui, eh ben, je vous propose, vous aussi, de découvrir le programme 30 jours énergie. On en a longuement parlé avec Jack et on a décidé de vous faire un super cadeau. Alors, vous connaissez mon talent pour la négoce et en tant qu'auditeur du podcast, Jack a accepté de vous offrir une réduction de 100 euros sur le prix de la formation. Et pour en profiter, c'est très simple. Vous allez dans la description de n'importe quel épisode, vous cliquez sur le dernier lien qui correspond normalement à la lettre, mais vous serez redirigé vers la formation. Et vous pouvez aussi retrouver la page en tapant directement dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com/énergie. Cette offre, elle est valable uniquement cette semaine, alors ne la manquez pas. C'est une opportunité en or pour dire adieu à la fatigue et retrouver une énergie constante. Par exemple, vous allez notamment apprendre comment modifier vos repas pour booster votre énergie, comment avoir un sommeil plus réparateur, quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour gérer son énergie au quotidien, quels sont les meilleurs compléments à prendre. Bref, c'est rempli de conseils pratiques, de routines simples et d'astuces qui sont efficaces pour que vous puissiez vous sentir au top de votre forme. Et en plus, Jack, il est tellement confiant dans l'efficacité de sa méthode qu'il vous offre une garantie. Si vous ne voyez pas d'amélioration dans votre énergie dans les 30 jours, vous serez remboursé intégralement. Vous avez donc absolument rien à perdre. Donc, je répète une dernière fois, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode ou alors vous tapez biomecaniquepodcast.com/énergie dans votre barre de recherche et vous aurez la réduction de 100 euros sur la formation. La promo se termine dimanche prochain, le 26 mai, traînez pas et maintenant, place à l'épisode.
Je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir se dépasser, de vouloir aller plus loin. Avec l'évolution de l'être humain, on s'est petit à petit adapté à notre environnement jusqu'à avoir envie de le dominer. Ça nous pose un peu la question de savoir est-ce que l'homme est si puissant, est-ce que l'homme est tout puissant. Mais en tout cas, je pense que c'est au fond de nous, tu vois, cette envie de vouloir dompter la nature, cette envie de vouloir dompter la vie.
Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps, à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures et qui vous permet aussi de découvrir tous les secrets des sportifs et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, on y parle de performance, de blessures, de thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada. Et j'ai l'honneur de recevoir pour ce nouvel épisode Barthélémy Feinte, qui tient aussi un podcast qui s'appelle Extraterrien, et dans lequel il va à la rencontre de sportifs hors du commun. Il a notamment interviewé des champions olympiques, des aventuriers, des explorateurs, des pratiquants de handisport. C'est un véritable passionné de sport. Il a d'ailleurs pratiqué lui-même de nombreuses activités, comme on va le voir. Et à travers donc ses activités, son podcast et ses rencontres, il côtoie très souvent des personnalités qui sont hors du commun. Alors ce qui a donné lieu dans cet épisode à des réflexions et des conversations autour des notions de dépassement de soi, de performance, d'excellence. Comment certains athlètes incroyables atteignent des résultats extraordinaires, ils réussissent à se dépasser et repousser les limites de leur corps et du corps humain, alors que nous, simples mortels, parfois il nous est difficile de juste réaliser nos vraies envies, ou simplement de lutter contre la procrastination. Au cours de cet épisode, Barthélémy va nous partager ce qu'il pense être la recette pour atteindre tous ses objectifs. On a parlé aussi de nos méthodes de productivité qui nous permettent d'accomplir nos objectifs, quels qu'ils soient. Qu'est-ce qui pousse des athlètes de haut niveau ou des aventuriers de l'extrême, comme Mike Horn par exemple, à toujours vouloir se dépasser et à flirter avec les limites de l'impossible? Quelle est la part de la génétique et de la chance dans la réussite d'un champion? Un épisode donc qui, je l'espère, va vous inspirer et vous donner envie de vous surpasser. Pour recevoir mes emails privés, vous pouvez encore vous inscrire à la lettre biomécanique. Vous recevrez chaque nouvel épisode du podcast tout fraîchement sorti directement dans votre boîte mail, avec à chaque fois les liens pour accéder à l'épisode sur chaque plateforme. J'envoie aussi une fois par mois la lettre biomécanique dans laquelle je vous donne des techniques, des astuces pour améliorer votre santé au quotidien, des méthodes pour améliorer vos entraînements pour qu'ils soient de plus en plus efficaces et des moyens de combattre et de faire disparaître toute douleur ou blessure que vous pouvez expérimenter ou pour éviter que vous en expérimentiez davantage. Vous avez la page en premier lien dans les notes de l'épisode si vous voulez vous inscrire. Sans plus tarder, voici ma super conversation avec Barthélemy, l'extraterrien, et je vous retrouve pour une conclusion à la fin de cet épisode. Je voulais commencer sur ça. Alors je me suis rendu compte, moi j'écoutais ton podcast, j'écoutais pas encore ton podcast lorsque j'ai démarré le mien, et j'avais fait déjà peut-être quelques dizaines d'épisodes. Et je me suis rendu compte qu'on avait quasiment la même question de début, alors j'ai trouvé ça assez drôle. Je la formule pas exactement pareil, mais pour le coup, aujourd'hui, je vais te poser la question comme toi tu la poses à tes auditeurs, je trouve ça sympa. Est-ce que tu te souviens, toi, de ton premier souvenir de sport? Et qu'est-ce que t'en as retenu?
Écoute, la première fois que je suis rentré dans une salle de fitness, je me souviens très bien, c'était en banlieue parisienne à Fontenay-sous-Bois, je crois que je venais d'avoir 18 ans et ça venait d'ouvrir, c'était une grosse chaîne qui est assez connue maintenant en France et parce qu'ils ont pas mal démocratisé le low cost et il y avait des sessions gratuites d'essai et j'avais pas mal de copains qui habitaient juste à côté et qui s'est déchaîné à la muscu et du coup j'y étais allé, j'avais fait tout, j'avais fait du squat, du soulevé de terre, du développé couché, des tractions, c'était parti un peu dans tous les sens et j'avais fait n'importe quoi, hein, vraiment n'importe quoi, et après j'ai mis beaucoup de temps avant d'y retourner et j'ai dû y retourner, je pense c'était en 2013-2014, et là quand j'y suis retourné j'étais beaucoup plus encadré, j'étais passé par une petite box de CrossFit avant, je m'étais beaucoup plus informé sur la technique, les méthodes d'entraînement. Donc voilà, ouais, j'ai deux souvenirs, un où c'était vraiment du n'importe quoi et du loisir, et l'autre peut-être un souvenir un peu plus adapté et un peu plus sérieux en tout cas à la pratique.
Et pourquoi tu y es retourné quelques années après? T'avais l'objectif qui avait changé, c'était en fonction de, c'était pour une préparation physique d'un autre sport?
En fait, la première fois, c'était effectivement, je m'étais mis au rugby et je voyais que moi, j'ai toujours eu un physique très très fin, des os très légers et j'ai même été très longtemps petit. J'ai terminé ma croissance à 21, 22 ans et du coup, en commençant le rugby, c'est sûr que j'avais un gros problème effectivement de musculature. Le jeu me plaisait énormément, mais je me prenais des tampons énormes et je souffrais beaucoup. Alors, j'ai jamais été au top niveau au rugby, hein. Loin de là, c'était du rugby dans un bon club qui est à Vincennes, mais j'étais dans la dernière des équipes et je jouais à côté en universitaire, donc j'ai jamais eu un grand niveau. Donc là, au début, j'ai commencé à m'intéresser à la musculation pour ça. Après, je me suis pas passionné pour la salle, mais surtout en fait les entraînements physiques qu'il y avait au rugby me suffisaient largement, et en fait petit à petit j'ai eu plusieurs amis qui ont fait STAPS ou plusieurs amis qui ont passé des BPJEPS et que je voyais s'y mettre et à ce moment-là, ce qui était assez marrant, c'est qu'ils ont tous découvert la discipline un peu du CrossFit. C'est une entreprise, hein, le CrossFit. Si c'est un sport, mais finalement il y a quand même une grosse connotation financière et commerciale derrière. Mais en tout cas voilà, ils ont découvert toute cette mentalité là et du coup c'est par eux que j'ai commencé à découvrir, à m'y intéresser et du coup quand je suis retourné dans une salle de musculation, j'avais déjà un peu cette vision de plutôt me dire j'ai envie de faire du CrossFit, ou en tout cas j'ai envie de faire des mouvements d'haltérophilie, j'ai envie de faire des mouvements de gym et j'ai envie de faire des mouvements fonctionnels et du coup j'avais vraiment envie de me plonger dans le sport à 100%, en fait j'avais vraiment envie de pratiquer le CrossFit et de le faire à 100% et pas de le faire comme un complément de sport, quoi.
Ouais, ok, c'est sûr qu'il vaut mieux faire ça bien, vaut mieux être entouré parce que ça peut être enfin dangereux. Tous les sports sont dangereux dans un certain sens, hein, mais c'est vrai que le crossfit, il y a quand même beaucoup de gestes techniques, des gestes qui sont issus de l'haltéro, donc bon, c'est bien d'être entouré, de faire les choses bien. Et pour l'anecdote, je me rappelle moi que je voulais faire du rugby aussi. Enfin, je pense qu'on a à peu près le même gabarit dans un sens, parce que moi aussi j'ai toujours été fin, les os légers. Je suis pas très grand, hein, je dois faire un mètre entre 1m73 et 1m75 et en fonction de, ouais, de quand je me mesure. si c'est le matin ou le soir, mais donc j'ai toujours eu ce gabarit qui est pas énorme, et je voulais faire du rugby. Je me rappelle, ma mère m'avait amené dans un club de rugby pour voir un petit peu comment c'était, tu vois, les inscriptions, comment ça se passait. Et le truc qui m'avait recadré, c'est, j'étais vraiment fan de rugby à l'époque, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment jeune. Et le truc qui m'avait pas dégoûté, mais m'avait mis un frein, c'était de savoir que tous les dimanches ou tous les samedis, il y avait les tournois, fallait aller dans le village à je sais pas combien de kilomètres pour aller faire le tournoi, etc. Il y avait peut-être des bus qui menaient l'équipe, mais tu sais, c'était un peu, ah ouais, donc tu t'inscris, en fait tu passes toute ta semaine presque à t'entraîner, et ensuite tu dois faire les tournois et les matchs le week-end. Et ça m'avait un peu refroidi. Alors je sais pas si j'ai voulu faire du rugby pour devenir plus fort, mais en tout cas ça m'a amené au fitness un petit peu plus tard.
Okay.
Et alors justement, voilà, je raconte ça. Bon, je sais pas si ça intéressera du monde, mais toi, t'as un podcast dont on reviendra parce que j'ai des questions là-dessus. T'as un podcast, t'as interrogé pas mal de sportifs, d'athlètes de haut niveau qui ont des expériences incroyables. Et moi, je serais quand même curieux de savoir, c'est quoi tes sports préférés, toi, et qu'est-ce que t'as pratiqué, et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu portes en louange comme activité sportive, tu vois, pour toi, ce qui est le top du top que t'adores.
écoute, c'est assez difficile et un peu déconcertant pour moi de répondre à cette question, alors que j'interviewe effectivement des sportifs généralement qu'on fait qu'un seul sport toute leur vie et pour atteindre le top niveau, quoi. Moi, j'ai eu un papa qui a fait du judo au niveau national, donc très très vite, très jeune, j'ai été mis sur un tatami jusqu'à, dans mes souvenirs, je crois, de mes 3 à mes 11 ans, j'ai fait du judo, donc voilà, j'ai eu petite ceinture verte, des petites compétitions départementales et régionales. Ensuite, je me suis mis au tennis. Je pense que c'était j'ai grandi avec le tennis, la génération avec les Cédric Pioline, les Sébastien Grosjean, Arnaud Clément, Fabrice Santoro, Nicolas Escudé aussi. Et du coup, j'ai fait du tennis. Ouais, j'ai fait beaucoup de tennis. Je m'y suis mis à fond. J'ai fait sport-études. Enfin, en tout cas, non, c'était pas sport-études, c'était horaire aménagé. Voilà, où je m'entraînais du coup à Montreuil. Et en fait, j'ai jamais réussi à décoller parce que physiquement, j'étais trop frêle. J'étais trop en retard. J'ai vraiment cru à un moment, tu vois, j'ai eu un petit niveau pour avoir fait quelques compétitions au niveau national et pour plutôt bien rouler ma bosse, notamment en double. Puis à 16-17 ans, j'ai fait presque un burn-out sportif. Je faisais du tennis 5 à 6 fois par semaine. J'étais tous les jours sur les cours, tous les jours en prépa physique, tous les week-ends, pareil, à aller faire des tournois à droite à gauche, les vacances avec mon père pendant les vacances scolaires, on démarrait le programme en janvier, février pour me remplir les 2 mois de vacances scolaires de tournois, et je faisais le tour généralement dans le sud parce que le niveau était un tout petit peu moins élevé qu'il était sur Paris. Et du coup,
est-ce que c'était le sud-est ou le sud-ouest?
Plutôt sud-est. J'ai joué un peu dans le sud-ouest, mais
on aurait pu se rencontrer.
Mais un peu moins. Ouais, plutôt sur la Côte d'Azur, parce que mon père préférait aussi. Mais non. Et puis après, ouais, burn-out sportif. J'en ai vraiment trop fait. J'en ai vraiment été gavé du tennis. Et en fait, j'ai complètement arrêté le sport. Et pour te dire, mon dernier match de tennis, j'ai explosé ma raquette sur le terrain et je suis sorti en pleurs du cours, et j'ai dit à mon père que je jouerais plus jamais. Et c'est vrai, j'ai plus jamais repris une raquette de tennis dans mes mains de ma vie. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers le rugby, parce que j'avais des copains qui me disaient, ouais, mais tu sais, le tennis, c'est un sport individuel, c'est un peu frustrant parce que des fois tu joues bien et tu perds, et des fois tu joues mal et tu gagnes. Ben là, le rugby, on est entre copains, et puis c'est aussi un peu j'avais 17-18 ans, donc c'est un peu aussi l'âge où tu découvres un peu peu l'esprit d'équipe, les filles, les soirées. Et c'est vrai que bah, être dans une équipe de rugby, bah, ça te rassure un peu, ça te rassure même beaucoup. Pour moi qui étais encore tout petit, hein, j'étais le plus petit garçon de la classe jusqu'à mes 16 ans et c'est après que j'ai grandi. Donc je me suis mis au rugby, j'en ai fait 5 ans, c'était vraiment par plaisir, vraiment c'était vraiment une expérience avec les copains, c'était le jeu, c'était l'éclate, se marrer dans les vestiaires, les petites soirées, se foutre un peu sur la gueule avec les adversaires, c'était ça les très bons souvenirs que j'en garde. Et après je me suis mis en même temps au CrossFit et au triathlon. En fait, je me suis mis au CrossFit et ça m'intéressait beaucoup. J'avais des copains qui en faisaient et j'aimais beaucoup la mentalité du sport. À chaque fois que je sortais d'une séance, j'étais ratatiné. Je m'étais mis une vraie timbale, quoi, comme on dit, et je sortais sur les genoux et j'adorais. Et puis en même temps, il y avait des groupes de course à pied qui se lançaient sur Paris et du coup, j'ai commencé un peu à courir pour sociabiliser, on va dire. Et je suis tombé dans le triathlon. J'ai fait 3 ans de triathlon. J'ai arrêté le CrossFit et je me suis mis à fond dans le triathlon pendant 2 ans et demi, 3 ans. Je suis allé assez vite sur la longue distance. Longue distance en triathlon, ça fait 1,9 km en natation, 90 km de vélo et 20-21 km de course à pied. Donc j'en ai fait 3 comme ça et je suis descendu à 5h15, ce qui est pas exceptionnel, mais ce qui était une très très bonne expérience. Et après j'ai eu des problèmes de santé et c'est pour ça que je suis revenu au CrossFit et à la musculation et aujourd'hui c'est ce que je fais à fond. En ce moment je m'intéresse pas mal aux méthodes de bodybuilding, mais voilà, je me dope pas, je prends pas de produits, donc j'ai pas une grande ambition par rapport à ça, mais j'ai un peu l'aspect mécanique des choses qui m'intéresse beaucoup, donc c'est pour ça que je suis vraiment très content d'être là et de pouvoir un peu en parler avec toi, parce que tu fais du super contenu et c'est une super source d'information, donc bravo pour ce que tu fais d'ailleurs.
Mais écoute, je te remercie. Et moi aussi, j'adore ce que tu fais. Et d'ailleurs, pour info, bah, tu parles de musculation, de bodybuilding. T'as fait un épisode avec Rudy Koya. T'as également participé à son podcast Superphysique podcast lors d'un épisode. Rudy Koya que j'ai reçu dans ce podcast dans les premiers épisodes. Hein, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller écouter l'épisode que j'ai fait. Ils peuvent aller écouter l'épisode que tu as fait aussi, qui est hyper intéressant. Donc ouais, bah on voit quand même que t'as pratiqué beaucoup. Aujourd'hui, bon, t'en viens sur des sports un peu plus personnels, individuels. T'es revenu sur CrossFit, muscu, choses un peu plus individuelles. Et moi, je me demandais, puis c'était ce que j'avais marqué, hein, est-ce que t'as eu à un moment donné vraiment une ambition de devenir professionnel ? Peut-être dans le triathlon, j'ai l'impression que c'est là où t'as quand même mis beaucoup d'efforts.
Ouais, bah en fait, j'ai toujours eu, peu importe ce que je fais, que ce soit professionnel, sportif ou personnel, j'essaye de le faire à fond. Donc j'ai toujours eu un fort esprit de compétition et j'ai toujours eu envie de me dépasser et j'ai toujours eu envie de repousser un peu mes limites. Je pense que la première ambition, on va dire professionnelle ou du haut niveau, je l'ai eu dans le tennis parce que je m'entraînais avec des joueurs qui étaient au top niveau et qui pour certains voilà, sont aujourd'hui dans le top 1000 mondial. Alors c'est peut-être pas ce qu'on voit à la télé à Roland Garros, quoique on en voit certains à Roland Garros, mais tu vois, c'est là que l'ambition un peu est née et le plaisir de vouloir goûter au haut niveau est né. Après, bon, moi, je me suis vite rendu compte que ça serait pas possible. Dans le triathlon, j'ai mis beaucoup d'énergie dessus. J'ai mis beaucoup d'énergie. Et puis, en fait, c'était aussi un moment où je pense que plutôt, j'avais toujours des entraîneurs en fait, que ça soit dans le judo, dans le tennis, dans le rugby, j'avais toujours un entraîneur, quelqu'un qui te dicte ce que tu fais et tu l'écoutes, t'appliques et tu vois. Et là, dans le triathlon, c'était un peu l'inverse. J'étais tout seul, donc j'ai dû énormément apprendre. Déjà, il y a 3 sports, donc tu dois apprendre sur 3 sports, donc tu te documentes énormément, tu regardes beaucoup de contenu, tu t'intéresses aussi énormément au matériel parce que le matériel c'est quand même un pilier dans le triathlon, hein, notamment à cause de la partie vélo et du cyclisme. T'es obligé d'avoir un super matériel et puis aussi à cause des transitions qui sont une étape charnière dans le triathlon. Donc je me suis énormément investi. Après, au niveau, enfin, relativement à mon niveau, c'était, j'ai eu un niveau assez assez bas, tu vois, je terminais dans les top 20%, top 15%, des fois un peu mieux, mais j'ai jamais réussi à passer ce palier là aussi parce que peut-être plus jeune, j'ai pas fait de sport de fond, et je pense que ça aide énormément hein, quand tu fais de la natation plus jeune ou de l'athlétisme plus jeune. Moi, je le vois avec les sportifs de haut niveau, ça change énormément, tu vois, sur le développement de l'enfant et le développement de l'athlète que ça va faire plus tard. Donc triathlon, ouais, je me suis énormément donné. C'est aussi énormément de passion parce que tu prends beaucoup de temps, tu t'entraînes énormément comme il y a trois sports, et du coup, tu manges triathlon, tu dors triathlon, tu fais tout triathlon. Donc c'est sûr que c'est un investissement qui fait que tu peux pas être à moitié. Donc je me suis beaucoup donné. Après, est-ce que j'ai eu une ambition du haut niveau? Je pense pas, mais en tout cas, j'avais l'ambition de vraiment maîtriser le sport sur le bout des doigts et de pouvoir aussi peut-être le transmettre à d'autres, pouvoir essayer de... J'avais un peu ce rôle dans la bande de copains, j'étais un peu celui qui allait énormément se documenter, énormément aller chercher de l'info et essayer de la transmettre aux autres. Et c'est peut-être plus là que, tu vois, j'ai compris que mon rôle, c'était pas forcément d'être le meilleur, mais peut-être plutôt essayer d'être celui qui est capable d'apporter aux autres et de tirer les autres vers le haut, d'inspirer les autres et de leur apporter du contenu de qualité pour qu'ils puissent eux progresser, quoi.
Et par curiosité, t'étais classé combien quand tu faisais du tennis?
Je suis monté au niveau la dernière année où j'ai pratiqué, j'étais 15-2. Je devais valider du coup 15 et en double, j'ai été classé 4-6. Donc j'étais un peu meilleur en double.
Ouais, 4-6, ça commence à avoir un sacré niveau, même 15-2. Mon maximum de classement, j'avais été 15-3, je crois. Donc okay. 15-2, ouais, non, ça commence vraiment à jouer. Et 15, tu passes en seconde série.
Ouais, exactement.
Ouais, là, c'est un palier
prof,
supplémentaire.
Tu peux jouer au niveau national, pas mal de compètes, donc ouais, ça commence à être sympa.
Ouais. Moi, je suis assez, on va dire, stupéfait par les athlètes de triathlon. Je connais pas bien et j'en ai pas interviewé beaucoup. J'ai pas eu trop de contacts avec des personnes qui faisaient du triathlon. On va dire que t'es la première personne aujourd'hui qui s'est investie dans cette activité avec qui je discute là. Enfin, en dehors des patients que j'ai eu en consultation, ça m'arrivait d'avoir une ou deux fois des personnes qui faisaient du triathlon sérieusement. Moi, je trouve ça dingue parce que, comme tu disais, hein, trois fois plus de sport, enfin trois sports, donc trois fois plus d'efforts, d'énergie à fournir et trois fois plus de compétences à développer dans un sens. Je trouve ça ouf. Et puis, ça se joue beaucoup avec la tête. Et ça m'intéresse, moi, tout ce qui se passe dans la tête aussi, parce que toi, tu t'es passionné pour ce sport. Donc tous ces sports, le triathlon, tu te passionnes, tu disais que c'est pour transmettre un petit peu, essayer d'apporter aux autres de quoi devenir meilleur. Et c'est quoi qui te passionne exactement dans les athlètes de haut niveau, dans les sportifs qui se dépassent, ou les sportifs de l'extrême d'ailleurs, puisque tu en as eu quelques-uns sur ta propre émission de podcast. C'est quoi qui t'anime, qui te rend, je sais pas comment on pourrait dire ça, un peu... passionné, tout simplement, passionné de ces gens-là qui vont franchir des limites.
Ouais, tu fais bien de dire le mot passionné, quoi. C'est vraiment ça. Je me suis passionné pour le sport en général. Je pense que je fais partie des gens. Tu vois, moi, je pourrais regarder des émissions comme Intérieur Sport ou des documentaires de sport. Je pourrais en regarder pendant des heures. Moi, ce qui me passionne de plus en plus, c'est vraiment l'aspect mental. C'est vrai que tu vois, je me suis beaucoup, comme je suis entouré de beaucoup de personnes qui ont fait STAPS ou des études dans le sport et qui sont aujourd'hui préparateurs physiques, coach ou même dans le domaine du médical et du paramédical. J'ai cette bonne culture un peu, on va dire, théorique. Mais derrière, en fait, ça fait pas la théorie sur l'entraînement, la théorie sur la génétique, ça fait pas les grands champions. C'est pas ça qui fait les grands champions. Ce qui fait les grands champions, c'est ce qui se passe dans leur tête. Alors il y a beaucoup de chance, on pourra en reparler, hein, à la fois de la génétique et aussi de la chance de ce qui t'arrive dans la vie. Mais au-delà de ça, quelque chose qui est fondamental, c'est vraiment comment est-ce que eux ils arrivent à transformer soit une douleur, soit une passion en une quête d'excellence, quoi. Et moi, c'est ça qui me passionnait, c'était en fait d'aller à la rencontre de ces gens-là, déjà un peu de les démystifier, de pouvoir me dire est-ce qu'ils sont comme moi, est-ce qu'ils pensent comme le commun des mortels, ou au contraire, est-ce qu'ils ont une vie vraiment différente. C'est la première chose que je voulais savoir. Et ensuite, ouais, ce qui m'intéressait, c'était de vraiment de pouvoir comprendre quels étaient leur cheminement mental pour arriver au haut niveau et comment est-ce qu'ils pouvaient gérer le haut niveau. Donc que ça soit le stress, que ça soit la quantité de travail. Et tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai fait un burn-out sportif, donc je me dis mais comment est-ce qu'eux ils font pour s'entraîner tous les jours, enchaîner des défaites ou des victoires. C'était vraiment ça qui m'intéressait beaucoup. Et après, en creusant un peu, tu vois, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est la discipline. La discipline, c'est quelque chose que je peux avoir, mais sur lequel je pense que je suis comme tout le monde. Je peux être un peu plus défaillant par moment, et je voulais un peu avoir leur ficelle, savoir comment est-ce que eux ils s'autodisciplinaient, comment est-ce que eux ils s'imposaient une rigueur de vie. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que je suis venu chercher en créant le podcast, tu vois, extraterrien, mais pour certains, je me suis rendu compte que la discipline était beaucoup plus facile et le mental aussi était beaucoup plus facile parce que certains sportifs sont très accompagnés. Donc en fait, ils ont leur discipline, elle est carrée, leur quotidien il est complètement cadré et du coup ils se posent pas trop de questions là. Et ce qui est, peut-être les sportifs qui sont un peu plus intéressants, ce sont ceux justement qui ont rien, tu vois, ceux qui sont dans des sports ou même peut-être plutôt des aventuriers, des explorateurs qui doivent tout construire dans leurs mains, donc ils doivent tout penser en amont, ils doivent tout construire et eux en fait ils sont assez remarquables parce qu'ils n'ont pas d'aide. Alors ils s'entourent de gens, hein, évidemment, mais ils sont obligés d'aller recruter ces gens-là, d'aller les chercher, de bien s'entourer. Et du coup, cette discipline en fait de construire des projets sur le long terme, parfois seul, dans lequel il te manque du financement, parfois dans lequel il te manque de la connaissance. Je suis assez fasciné en fait de leur capacité à s'entourer et à aller chercher ce qu'il y a autour d'eux. Donc ce qui m'intéresse, ouais, plus autour du haut niveau, hein, c'est vraiment savoir ce qui se passe dans leur tête et comprendre un petit peu leur histoire et comprendre comment est-ce que aujourd'hui ils s'arment en fait pour être et pour rester au top niveau, quoi.
Mais à l'origine, lorsque t'as creusé là-dedans, justement pour aller chercher un peu les clés de leur réussite, est-ce que c'était quelque chose que tu voulais pour toi? Tu voulais aller à la pêche aux informations, ces informations précieuses des athlètes qui ont, on va dire, réussi ou en tout cas qui sont disciplinés, pour toi te les approprier et puis les appliquer? Parce que voilà, pour être complètement honnête, moi je suis pareil, très intéressé par tout ce qui est performance, la discipline, le fait de se surpasser, pas forcément dans tous les domaines, mais en tout cas d'aller chercher le meilleur de soi, le haut niveau, à son propre niveau, le haut niveau. Moi ça m'intéresse énormément, mais pour être parfaitement transparent, c'est parce que j'ai aussi envie de m'imprégner de ces valeurs-là pour moi-même, en fait, aller chercher le plus haut de moi-même, si tu veux. Est-ce que toi, c'était la même chose? C'était pour les adapter à toi et à tes objectifs, ou il y avait d'autres considérations ou d'autres buts derrière?
Écoute, ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, je pense un petit peu comme toi, je voulais aller tirer leur conseil en fait. Je voulais aller vraiment presque que ça soit les sportifs de haut niveau qui me coachent pour que je puisse en tirer des choses et pouvoir l'adapter peut-être à mon activité professionnelle ou l'adapter à ma vie personnelle, tu vois, mon organisation, mon état d'esprit. Tu vois, j'aime beaucoup la phrase qui dit que on est la moyenne des personnes qu'on voit le plus souvent. Et tu vois, et du coup en fait l'idée un peu du podcast, c'était de me dire ok, comment est-ce que je peux aller rencontrer ces athlètes de haut niveau pour qu'ils me donnent des conseils et pour que je puisse comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, et en même temps comment est-ce que du coup je peux peut-être le partager et en faire quelque chose de vraiment d'en faire une discipline et d'en faire une routine, et comment est-ce que je peux du coup me créer un réseau autour de ça. Et en fait l'idée d'aller les interviewer, je pense que c'est toujours un super conseil, quoi, pour n'importe qui veut devenir expert dans un sujet. Je pense qu'une des meilleures façons de progresser, c'est d'aller interroger en fait d'autres experts dans le même domaine ou dans des domaines un peu similaires, et de pouvoir en fait centraliser un peu cette information pour soi et pouvoir l'adapter. Donc il y avait tout à fait ce but là. aussi je suis assez j'ai monté plusieurs entreprises quelques-unes dans le sport et la santé et j'avais un peu l'envie de me créer un réseau aussi de créer quelque chose dans lequel je vais à la rencontre des gens parce que j'ai monté plusieurs entreprises ou dans lequel j'étais assez seul finalement et je me tournais pas trop vers le monde extérieur et du coup c'était un peu la croisée des chemins quoi. C'était j'ai eu l'idée du podcast en me disant j'ai envie de tirer le meilleur des sportifs, j'ai envie de à la fois de créer du contenu qui soit quelque chose qui soit valorisant pour les autres, en même temps de me créer un réseau, d'apprendre plus rapidement. C'est vraiment je vais pas dire que c'était j'ai pas eu un éclair de génie parce que j'écoutais énormément de podcasts et je voyais ce qui se faisait et du coup j'étais un peu guidé par ce que les contenus que je consommais et ce que j'avais envie de faire mais un jour en fait ça s'est dessiné tout seul en fait. C'était j'avais plusieurs réflexions en tête sur les points que je t'ai cités et en fait tout a convergé vers le podcast et je me suis dit en fait c'est évident, c'est ce qu'il faut que je fasse et je vais le faire de manière régulière et je vais le faire à fond. Et je vais essayer de me fixer des objectifs. Moi, j'ai pas envie de dire que j'ai envie de devenir le meilleur podcasteur, mais j'ai envie de devenir une référence dans ce domaine-là. Comme ça, je peux directement adapter ce que j'apprends des sportifs de haut niveau dans la pratique du podcast et dans d'autres domaines de ma vie, quoi.
Ouais, je me retrouve dans tout ce que tu racontes sur le projet podcast, puisque j'ai à peu près les mêmes raisons qui m'ont poussé moi aussi à lancer mon podcast biomécanique, hein, à savoir réseauter dans un sens, c'est-à-dire que aller à la rencontre de personnes qui sont motivantes, qui ont réussi dans leur domaine, aller apprendre d'eux, en même temps partager du contenu, créer une audience, se faire avoir un projet qui te porte un peu. Et une raison aussi supplémentaire que j'avais en tête et que je viens d'oublier. Oui, c'est le principe de la formation continue. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça. Je n'utilise pas que mes podcasts pour me former, on va dire, mais c'est une super bonne façon pour moi aussi d'aller rentrer en contact avec des spécialistes et puis de leur poser des questions sur des sujets que je connais pas nécessairement. Je pense là, par exemple, à l'haltérophilie. Je pense à l'acupuncture. Je pense à quoi je pourrais penser. Je pense à un peu plus de choses psychologiques. J'ai enregistré un épisode qui est pas encore sorti. Et c'est quand même un super moyen de te dire, je vais directement passer une heure trente avec quelqu'un qui va m'apprendre des choses. En passant, je veux dire, sans forcément je peux aller à des conférences, je peux me former différemment avec des livres, avec des formations, etc. Mais c'est quand même génial d'avoir presque comme le formateur qui va répondre à tes questions pendant 1h30. Donc cette idée de formation continue aussi à personnel, je la trouve intéressante et j'imagine que tu la vis aussi, tu vois, je veux dire, même si c'est pas forcément des gens qui vont t'apprendre des techniques particulières pour ton métier, même si c'est uniquement des personnes qui partagent leur expérience et leur parcours, ça reste un modèle de formation continue dans un sens, quoi. Et
ouais, carrément, ouais.
Sur ton podcast, toi, t'as réalisé maintenant plus de 40 épisodes. Je ouais. recommande tous les auditeurs qui ne connaissent pas Extraterrien, qui est le nom de ton podcast, on l'avait pas encore cité jusque-là, à aller voir, aller écouter des épisodes. Tu m'avais recommandé particulièrement, et je recommande à mon tour les épisodes avec Raphaël Poulain, avec Torpeur, j'ai oublié son prénom.
Mathieu Torder, ouais.
Torder, pardon, Mathieu Torder, ouais, qui est un super épisode. Moi, ça m'a scotché. Et donc après 40 épisodes, est-ce que avec des athlètes, je vais un petit peu reconditionner, avec plus de 40 épisodes avec des athlètes, avec des sportifs, avec des personnalités extraordinaires, on va dire, des sportifs de l'extrême aussi. Est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir, tout le monde peut devenir un athlète de haut niveau?
J'ai peut-être une réponse qui va être un peu déceptive pour certains auditeurs, en tout cas, mais moi j'ai pas du tout un discours marketing un peu bullshit pour vendre à tout prix des produits ou quoi que ce soit. Il faut être très honnête avec les gens. Chaque sport met en avant une certaine morpho-anatomie, une certaine morphologie, une certaine génétique. Et je pense que malheureusement, il y a une injustice génétique tout simplement, et qui fait qu'en fonction de sa génétique, on va pouvoir atteindre vraiment le haut niveau dans certains sports et pas dans d'autres. Alors ça va un peu à la rencontre effectivement des discours marketing qui dit oui, tout le monde peut y arriver, on peut, tout est dans la tête, une fois quand on veut on peut, no pain no gain, enfin tout ce qu'on connaît quoi. Moi je vais être hyper transparent pour m'être intéressé à plein de sports différents. Tu le remarques tout de suite, les grands champions ont tous la même, dans un sport particulier, tous les grands champions ont la même morpho-anatomie, tu vois. Par exemple, si tu prends le sprint avec Usain Bolt et tous ses concurrents, bon, voilà, c'est petit buste, très grand bras, très grandes jambes. Ensuite, si tu prends l'haltérophilie, c'est tout l'inverse, c'est bassin très très large avec des petits membres. Si tu regardes aussi, tu vois, typiquement les apnéistes, par exemple, tu vois, ils ont une surface thoracique et une surface pulmonaire qui est supérieure à la moyenne. Enfin, tu vois, quand tu creuses un peu, il y a toujours un petit atout génétique. Alors après, ce qui est vrai, c'est que n'importe qui peut se dépasser soi-même déjà, et n'importe qui peut repousser ses propres limites, et n'importe qui peut avoir un niveau très élevé dans une discipline, je pense. Tu vois, je pense qu'on peut. Tu vois, j'aime bien la règle un peu des 10 000 heures, tu vois, où on se dit bah si pendant 10 000 heures je pratique une activité, je peux la faire avec excellence. Est-ce que tu pourras être au top niveau? Je pense pas. Est-ce que tu pourras faire partie des meilleurs mondiaux? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, si tu pratiques 10 000 heures, c'est sûr que tu seras une référence dans ton domaine, et t'auras tellement appris que tu seras un expert, ça c'est sûr. Mais je pense vraiment pas que n'importe qui, ou n'importe quel enfant peut atteindre, peut devenir champion, quoi. C'est déjà il y a une grosse partie de chance pour devenir champion. On oublie de le dire, hein, mais il y a tellement d'histoires, moi, que je vois sur mon podcast. T'entends des parcours de vie où en fait des sportifs de haut niveau qui se retrouvent dans un sport mais complètement par hasard, parce que quelqu'un leur a dit, parce qu'un entraîneur leur a recommandé quelque chose, ou parce que au contraire ils ont abandonné un sport et que ils sont allés jouer avec les copains et qu'ils ont découvert quelque chose d'autre. Et donc tu vois, tu as découvert plein de sports, tu es un passionné, on en a essayé plein. Et ben en fait, il faut tous les essayer pour savoir dans lequel tu peux être le meilleur. Déjà, prendre du plaisir, c'est hyper important, je pense que c'est le fondement de tout. Et en plus, être bon, quoi. Tu vois, je pense que c'est la vraie définition de la réussite, c'est prendre du plaisir dans quelque chose et en plus être bon et avoir envie de progresser. Et pour que t'aies ces trois critères là qui s'allient dans une même discipline, c'est hyper rare. Faut une part de chance, faut une part de destin, et malheureusement, c'est peut-être pas politiquement correct, hein, mais c'est ça qui fait les grands champions. C'est une part de chance et une part de destin, quoi, et en plus une part de génétique.
Ouais, et c'est hyper intéressant, cette histoire de chance, justement, parce que tu parlais tout à l'heure d'être anti-discours marketing absolu, on va dire. C'est bien d'avoir des discours un peu de motivation, hein, ça peut faire un petit peu bouger les fesses sur le moment, mais il faut quand même, comme tu dis, recadrer à un certain moment et pas non plus vendre du rêve dans l'absolu. Cette part de chance, évidemment, elle existe. Peut-être qu'à un certain niveau... Je sais pas, c'est une réflexion que j'ai là. Cette histoire de chance, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que beaucoup de choses sont dues à la chance. Mais plus tu progresses et plus tu vas chercher des informations, tu vas lire des livres sur, voilà, ou même rencontrer des gens sur la performance, sur le succès, sur l'entrepreneuriat aussi, hein, est concerné, plus on va réduire l'impact de la chance à quelque chose qui n'a pas sa place, tu vois. Ou alors les discours aussi classiques, ça va être la chance, tu la provoques, etc. Donc d'un côté, je trouve qu'on a c'est un peu des discours inverses, c'est-à-dire que d'un côté on a ceux qui se disent ouais, c'est uniquement de la chance, ça va me tomber dessus, qui sont pour ma part, je pense, complètement dans le faux, parce que si t'attends dans ton lit que la chance se présente, elle va jamais se présenter. Mais d'un côté, ce truc de se dire la chance il y est absolument pour rien, ça va être le travail, ça va être ceci, ça va être cela, on est complètement à l'inverse et on se trompe. Et c'est intéressant de recadrer un peu ça et de se dire en fait la chance, oui, elle est là, elle participe, pas aussi peu que certains veulent le faire entendre, mais pas autant que certains voudraient le croire, tu vois. Donc cette partie [S2] Ouais. [S1] De chance, elle est là. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui dirait ouais, mais la chance, c'est une question de de circonstances, tu la provoques parce que t'as découvert cette activité, peut-être parce que par juste avant t'as fait ça qui t'a amené là, et en fait tout ça c'est un truc un peu de la chance, c'est l'aboutissement de ce que t'as fait avant. Ouais. Comment tu vois ça, toi?
Bah, c'est vrai que le terme, tu vois, il faut peut-être se replonger dans nos dictionnaires et reprendre la définition du mot chance. Et c'est sûr que, en fonction de la définition que tu lui donnes, la phrase a pas du tout le même sens. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. La chance, c'est quelque chose qui se crée. C'est pas du tout un statut figé. C'est pas quelque chose qui peut t'arriver dans ton lit par inaction. La chance, c'est tout l'inverse. C'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est quelque chose que tu vas créer par interaction avec les autres, par interaction avec ton écosystème. Et c'est peut-être qu'on devrait plus parler d'opportunités, peut-être plutôt que de chance. Et les opportunités, elles arrivent pas quand tu restes dans ton lit. Ça, c'est clair. J'ai jamais vu quelqu'un réussir en ne faisant rien et en attendant que tout se passe. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Là où effectivement je dis une part de chance, bah tu vois, typiquement, je prends un destin de sportif auquel je pense. C'est Benjamin Auffray, tu vois, il fait du plongeon à 10 mètres. C'est pas un sport qui est très connu. Bon, il s'avère qu'il a terminé 4e au JO que je te dise pas de bêtises, à Rio. Ouais, et tu vois, il termine 4e au JO. Ben en fait, jusqu'à ses 16-17 ans, je crois, il fait de la gymnastique. Il est au niveau national. Il transcende pas la scène de la gymnastique à ce moment-là. Et puis en fait, il rencontre un entraîneur qui lui dit, bah écoute, toi, tu devrais peut-être essayer le plongeon. Le plongeon, c'est t'as sûrement un coup à jouer, tu vois. On appelle ça de la chance ou du destin, je sais pas, mais en tout cas effectivement il l'a créé, il est allé le chercher, ça, mais il y a quand même une part de hasard, tu vois, qui fait qu'il est tombé sur cette personne qui lui a recommandé ce sport. Et s'il n'était pas tombé sur cette personne là et ben peut-être qu'il serait tout simplement resté à faire de la gym, et peut-être qu'il aurait pas eu tous les titres qu'il a eu aujourd'hui en plongeon à 10 mètres. Et donc effectivement je pense qu'il faut pas utiliser trop le mot chance. Il est très galvaudé, très mal utilisé par la plupart d'entre nous, et moi le premier, parce que j'aurais pas dû l'utiliser. Mais
t'as raison, parce que justement ça permet de discuter autour de ça et de préciser les pensées et les termes comme ça, donc c'est plutôt intéressant, quoi.
Ouais, exactement. Enfin, on a tous un destin. Je pense qu'il est pas écrit. Je pense que c'est à nous de l'écrire, c'est à nous de le prendre en main. Il y a une part d'acquis, il y a une part d'inné, mais en tout cas on peut vraiment écrire son destin, et on peut faire de tous de grandes choses. Je pense qu'on a tous les armes pour faire des choses incroyables. Et après, bah voilà, faut accepter des fois que d'autres aient plus de chance que nous, que d'autres réussissent un petit peu vite, un petit peu plus mieux, que d'autres fassent les meilleures rencontres, fassent des meilleurs choix aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, pour rejoindre ce que tu disais, il faut créer, il faut aller de l'avant, il faut aller chercher de l'information, il faut se documenter, il faut chercher à progresser. Et je pense que le meilleur objectif, c'est déjà de progresser soi-même. Effectivement, et ça, c'est quelque chose qui se construit, et c'est pas quelque chose qui t'arrive par hasard dans ton lit, quoi.
Donc, si je fais un petit résumé grossièrement, on va dire que pour atteindre un super niveau dans un domaine X, pour chaque personne, ça va être un peu à la croisée entre la génétique, qui prend une très grosse part de gâteau, on va dire, la génétique, le plaisir à effectuer l'activité en question, l'opportunité, donc, ou la chance, selon comment on définit le truc. La génétique, je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que de temps en temps on peut entendre des discours un petit peu trop généralistes sur vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quand tu veux tu peux, ce genre de choses. Pour reprendre Delavier avec une de ses phrases, ouais, qui est « quand tu veux, tu peux, sauf quand tu peux pas ». Eh ben, je trouve ça assez marrant, c'est extrêmement simpliste dit comme ça, mais quand tu réfléchis à cette phrase, tu dis effectivement « quand tu veux, tu peux, mais quand tu peux pas, sauf quand tu peux pas ». Et il y a des fois, tu vas pas pouvoir malgré tous tes efforts, et parce que ta génétique, parce que ta morphonatomie, hein, par exemple, comment t'es fait, comment la taille que tu fais, la taille de ta cage thoracique, la longueur de tes os, etc., va pas te permettre de pouvoir être champion dans un sport particulier. Comme tu disais, quelqu'un d'hyper longiligne, il part quand même avec un sacré handicap pour être un champion d'haltérophilie ou un autre sport qui demande d'avoir les bras plutôt courts, on va dire. Et alors une question, on parle, je suis dans la génétique là, une question un peu bête peut-être, je sais pas ce que tu vas me le dire hein, si c'est bête et s'il va y avoir une réponse derrière, une piste de réflexion. Est-ce que tu penses que le désir de performance, on va dire ce mental à vouloir se surpasser, se déchirer, tu vois, est-ce que ça, tu penses que c'est génétique complètement ou ça peut s'acquérir, tu vois, cette volonté de faire?
Écoute, c'est une bonne question. Je t'avoue que quand je regarde les sportifs de haut niveau, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais je fais souvent une analogie un peu avec les grands entrepreneurs, les grands businessmen, et j'ai l'impression que généralement la performance ou l'envie de se surpasser plus fort que les autres, j'ai l'impression que soit ça part d'une énorme douleur ou soit d'un énorme plaisir, tu vois. J'ai l'impression que parmi les sportifs, il y a effectivement ceux qui ont pris tellement de plaisir à pratiquer ce qu'ils font tout le temps et qui sont toujours à la recherche en fait de plus de plaisir et qu'ils arrivent à progresser comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre catégorie un peu de sportifs un petit peu particulière où effectivement ça part plus d'une douleur, d'une souffrance personnelle, tu vois, cette envie de vouloir prouver des choses aux autres, de pouvoir prouver des choses au monde qui l'entoure. Je pense qu'on en est tous, franchement, on est tous capables d'aller tirer au fond de soi des ressources pour se dépasser. Tu vois, moi c'est souvent un conseil que je donne pour les gens qui veulent atteindre leurs objectifs, c'est vraiment de trouver leur why, tu vois. Pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce que tu veux être le meilleur en ostéo? Pourquoi est-ce que tu veux être le meilleur dans le podcast? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Et je pense, tu vois, partir de ça, quand tu pars de ça, tu peux arriver à des choses assez puissantes. Tu vois, il y a la fameuse vidéo de Simon Sinek, tu vois, sur le why, how, what, mais que j'aime beaucoup. Et je pense que on peut tous, à l'intérieur de nous, tu vois, être capable de chercher un pourquoi. Et en fait, c'est sûr que si tu trouves pas ton pourquoi, si tu sais pas, si tu te dis ouais demain je vais me mettre à la muscu et que tu sais pas pourquoi tu te mets à la muscu, eh ben t'iras jamais très loin en fait. Je pense que si tu sais pas pourquoi tu le fais et si tu sais pas à l'intérieur de toi ce qui te prend au trip et ce qui te motive, c'est beaucoup plus compliqué d'atteindre l'excellence. Je vais peut-être pas utiliser le mot performance, mais plutôt l'excellence déjà vis-à-vis de soi-même. Si t'as pas une envie profonde, tu vois, d'y arriver ou une motivation profonde d'y arriver, quoi. Donc c'est ça qui est le plus intéressant, je pense, c'est d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui va driver notre vie et notre ambition, quoi.
Ouais, un espèce de moteur qui te pousse à vouloir faire le truc en question. Je crois qu'il y avait un bouquin qui était le why ou quelque chose comme ça qui te permettait peut-être d'aller chercher au fond de toi le pourquoi tu voulais faire telle chose ou aller au contraire chercher la raison pour pouvoir te dépasser. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que ça doit exister.
C'est le bouquin Why de Simon Sinek, ouais.
Ah oui, ben voilà. Café. Voilà. Ouais. C'était le nom du bouquin. Ok. Ben tu vois, sur ce surpassé comme ça, moi en ce moment je m'intéresse pas mal à Mike Horn.
Ouais.
J'en avais discuté avec Jérôme Quadrado dans le podcast. Qui est psychologue et du coup on avait parlé un petit peu de ça, de les raisons de se dépasser. Pour ceux qui savent pas, donc Mike Horn, je rappelle, c'est ce qu'on appelle un aventurier de l'extrême qui se lance des défis un peu fous, à savoir faire le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur, faire le tour du pôle arctique en suivant la ligne je sais pas quoi. Je suis en train de lire un de ses bouquins en ce moment et moi je trouve ça fou. Alors et évidemment, c'est extrêmement bien raconté, c'est très émotionnel comment il raconte son parcours, enfin son trajet lorsqu'il fait ses défis, lorsqu'il fait ses explorations. Et quand même, il y a des moments où il frôle la mort, il en a conscience, il sait par exemple à un moment donné qu'il va marcher pendant je sais pas combien de milliers de kilomètres sur la banquise, qu'il va faire moins 40 degrés, qu'il a de grandes chances d'y rester, de perdre ses doigts, enfin de tout ce que tu veux, que ça va être fou, qu'il va croiser des ours, etc. Et même parce que là j'en suis à un passage où même des Inuits en fait lui disent, en fait il y a de grandes chances que tu meurs, quoi, parce qu'il fait nuit, il va faire nuit quasiment tout le temps et c'est des températures extrêmes auxquelles l'humain n'est pas censé survivre. Bon, il a tout ce qu'il faut, c'est hyper bien préparé. Mais tu dis, ce mec-là, il a quand même une volonté de faire son truc qui est assez dingue. Je sais pas si toi tu t'es déjà, enfin tu, oui, tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi tu penses que ce mec-là fait tout ça, quoi? Je veux dire, pour quelle raison? Pourquoi se surpasser, aller vouloir frôler la mort quasiment, quoi?
C'est une question compliquée, tu vois. Moi, j'ai pas lu son livre encore, mais tu vois, il est dans ma bibliothèque en plus, donc j'ai honte. Je vais me jeter dessus parce que c'est vrai que c'est une référence, ce bouquin. On m'en parle plusieurs fois et il faut absolument que je le lise.
Je te conseille l'attitude zéro, donc qui est vraiment qui est excellent parce qu'il fait le tour du monde, il traverse les quatre océans, il traverse la jungle de l'Amazonie tout seul à pied, il traverse l'Afrique, c'est incroyable. Celui que je lis en ce moment, c'est l'expédition Arctos. Le livre, je sais plus le nom. J'ai plus le nom du livre, mais c'est sur son expédition Arctos qui est assez dingue aussi. Mais je te conseille l'attitude zéro. Qui est peut-être un de ses meilleurs bouquins. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était juste pour préciser.
C'est celui que j'ai, donc je vais le lire bientôt, faut que je m'y mette. Mais écoute, pour répondre à ta question, je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir se dépasser, de vouloir aller plus loin. Le livre un peu moi qui m'a révélé à ça, c'était un peu c'était le livre Sapiens, tu vois, de voir peu à peu comment avec l'évolution de l'être humain on s'est petit à petit adapté à notre environnement jusqu'à avoir envie de le dominer, tu vois. Et aujourd'hui, si on est allé aussi loin, je pense dans la domination de notre environnement. Et c'est marrant parce que tu vois là, on est en période de virus et de confinement, et du coup, ça nous pose un peu la question de savoir est-ce que l'homme est si puissant, est-ce que l'homme est tout puissant. Mais en tout cas, je pense que c'est au fond de nous, tu vois, cette envie de vouloir dompter la nature, cette envie de vouloir dompter la vie aussi, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on dépense des millions et si ce n'est des milliards pour trouver des remèdes sur certaines maladies ou sur certaines pathologies? Je pense qu'on a ce désir en nous, être humain, de vouloir dompter notre écosystème et de vouloir peut-être être curieux et de vouloir repousser les limites. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus un point de vue macro, tu vois, de sur l'être humain. Je pense que ça fait partie de nous. Ce qui est assez contradictoire, c'est que ben il est assez prouvé quand même que l'être humain normalement cherche plutôt le confort, cherche soit le confort, soit éviter le risque et éviter le danger. Donc c'est ça qui est un sacré paradoxe. Ouais, il y a un super paradoxe, c'est que effectivement on se crée une zone de confort pour l'agrandir en permanence. Moi j'aimais beaucoup une phrase effectivement de Jérémy Azou qui me disait on ne sort pas de sa zone de confort, on l'agrandit, et c'est une phrase que je garde et que je répète souvent, et du coup j'aime bien quand même lui rendre hommage. Et je pense que ça fait partie de notre nature humaine. Ça part souvent, et comme je te le disais, hein, soit généralement d'une douleur, soit d'un plaisir. Je saurais pas trop l'expliquer. J'écouterai ton épisode de podcast parce que ça m'intéresse beaucoup. Et c'est peut-être pas le sujet sur lequel je suis le plus spécialiste, mais en tout cas, il y a. Je trouve que les êtres humains de manière générale sont assez fascinants. Quand ils ont une idée en tête, leur capacité à la transformer, en du concret, pour continuer sur les citations un peu inspirantes, il y a, je sais plus de qui ça vient, mais c'était un objectif sans deadline, ce n'est rien d'autre qu'un rêve. Et tu peux la mettre dans un autre sens, tu vois, un rêve avec une deadline, c'est rien de plus qu'un objectif. Et je pense que c'est vrai, tu vois, on est capable de grandes choses avec le cerveau humain, on est capable de vraiment surpasser. Et c'est vrai que c'est assez fascinant, tu vois, je me renseigne de plus en plus sur ce sujet-là, de savoir un peu quels sont nos drivers mentaux. Il y a un autre bouquin que je peux te conseiller qui s'appelle Les lois de la nature humaine, qui est assez intéressante.
Je l'ai noté très récemment en plus.
C'est un énorme pavé, donc faut avoir le temps de se l'avaler, mais il est vraiment fascinant effectivement sur les drivers humains. Qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui fait qu'on fait des choses parfois complètement folles, parfois irrationnelles, quoi.
Est-ce que c'est Robert Greene qui l'a écrit, celui-là?
Ouais, exactement, ouais, okay. Super auteur.
Oui, c'est bien celui que j'ai noté, ouais. Je l'ai mis dans ma liste de lecture, donc je suis extrêmement intéressé. Et tu vois, lorsque j'en parlais avec Jérôme sur l'épisode, donc épisode 22, avec Jérôme Quadrado, qui est un psychologue clinicien, on parlait de tout ce qui est troubles psychologiques autour du sport. Le sport rend-il fou, notamment. Et alors, c'est pas un sujet... Mike Horn n'a pas été un sujet du... sur lesquels on a bataillé pendant un moment, hein, mais moi ça m'est venu à un moment donné, donc je lui ai posé des questions et il y avait une piste qui était intéressante, qui était celle du neurotype. On en a pas parlé pendant 30 ans, mais c'est à creuser, c'est quelque chose qu'a développé notamment Christian Thibaudeau. J'invite tout le monde à aller écouter l'épisode, hein, qui est un peu long, mais qui est bourré d'informations hyper génial, je trouve. Donc l'histoire du neurotype, pour faire simple, c'est que chacun a un neurotransmetteur préférentiel. Enfin, je vais vulgariser. Hein. Chacun a un neurotransmetteur différent, préférentiel dans le cerveau, en quantité un petit peu plus haute, et ce qui fait que ça lead un petit peu plus les actions du quotidien. Et par exemple, sur cette idée, sur cette théorie, on pourrait penser que Mike Horn est quelqu'un qui a beaucoup de qui marche énormément à la dopamine, admettons, et que le fait de se surpasser, ouais, d'aller dépasser ses limites, les possibles de l'être humain, de ce que peut faire l'homme, etc. Parce que lui, il adore en fait aller là où les gens ne sont pas allés, ou faire ce que les gens n'ont pas encore fait. Et peut-être que ça serait une piste de réflexion, de dire tiens, peut-être qu'il est très dopaminergique, comme on pourrait dire, et que ça l'amène à se surpasser, à faire ça. Mais je voulais avoir ton avis aussi, parce que pour avoir interrogé beaucoup de personnes qui avaient fait ce genre d'exploration, ce genre de défis extrêmes, je trouve ça intéressant.
Bah après, ouais, il y a beaucoup de sportifs qui marchent à la dopamine, hein. Je pense que c'est le dopamine ou l'adrénaline, d'ailleurs, ça dépend peut-être de certains, mais c'est sûr que c'est assez fascinant, en fait, cette envie de vouloir rechercher effectivement toujours plus, toujours plus loin. Je pourrais pas forcément t'en dire plus pendant des heures, mais en tout cas, ouais, c'est un sujet qui est fascinant, quoi.
Bon, et puis là, on parle donc des athlètes exceptionnels, hein, ou en tout cas des personnalités hors normes, Mike Horn, athlète de haut niveau, dont on a mentionné, hein. On va dire que ça représente une infime partie de la population. Si on revient un petit peu à quelque chose de plus basique et qui nous concernerait un petit peu plus. En tout cas, qui concernerait, ouais, les gens qui ont un peu du mal à atteindre leurs objectifs, qui ont du mal à se lancer. On va essayer de rester un peu moins philosophique et rechercher des principes un peu réflexionnels comme ça. Je sais pas si ça se dit. Bref. Est-ce que toi, t'as des outils, t'as réussi à collecter quelques techniques, quelques façons d'aborder les choses pour déjà atteindre un peu plus ces objectifs, voilà, petit à petit, aller chercher un petit peu plus haut, sans forcément voir la montagne hyper haute et aller vouloir devenir le conquérant de l'espace.
Ouais, bah écoute, j'ai deux petites, on va dire, techniques que je me rappelle assez souvent dans la recherche de mes objectifs, et effectivement, je peux la recommander aussi aux auditeurs. Le premier, c'est le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes, et c'est je trouve ça hyper hyper puissant. Mais j'ai un très bon copain qui s'appelle Onur, qui a écrit un livre qui s'appelle Petites habitudes, grandes réussites. Et je trouve que le titre le résume bien un peu l'état d'esprit que je peux avoir sur la question. C'est que on se rend pas compte à quel point, en fait, le fait de répéter quelque chose très souvent, aussi petit soit-il, à quel point ça peut avoir un impact bénéfique sur toutes nos vies, tu vois. Si par exemple, tu vois, je te prends un exemple, si tu me dis que tu veux apprendre le grand écart, eh bien, t'apprendras pas le grand écart en faisant pendant 2 semaines hyper intensément, en fait. Le grand écart, tu vas l'apprendre en faisant tous les jours 5-10 minutes, vraiment tous les jours. Et peut-être que si tu as un peu de chance et que tu as une bonne génétique, tu arriveras à faire un grand écart dans 1 an, peut-être 2 ans. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se répète. Et tu vois, je pense que c'est pareil, typiquement sur le podcast, tu vois, comme on a tous les deux, le fait de répéter. Tu vois, on pourrait se dire, ouais, j'ai envie d'avoir tout le savoir humain en un seul épisode. En fait, non, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est faire plein d'épisodes et aller les chercher un par un, travailler son talent d'intervieweur, travailler son introduction, travailler la qualité de ses questions, travailler la qualité des invités. Et en fait, c'est en répétant petit à petit que tu deviens exceptionnel. Donc vraiment, pour atteindre ces objectifs, voilà, faut toujours essayer de se concentrer sur quelles sont les petites habitudes que je peux mettre en place pour vraiment y arriver, et pas forcément croire que tout va arriver d'un seul coup, et au contraire croire au long terme, et croire à la puissance de petites actions répétées infiniment presque. Donc ça, c'est quelque chose que je retiens beaucoup. Et après, Une deuxième chose que,
juste avant la deuxième chose, parce que je rebondis très vite fait, ça me fait penser aussi au principe d'Aaron Hardy qui est l'effet cumulé finalement. C'est ça, c'est faire des petites choses au quotidien et puis à la fin de l'année, t'as fait un truc énorme, t'as vachement progressé. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter.
Ouais, exactement. Et puis c'est quelque chose que tu retrouves aussi dans plein d'autres disciplines. Tu vois, j'ai lu un bouquin qui m'a fasciné qui s'appelle Delivering Happiness. Alors ça parlera peut-être beaucoup plus à ceux qui sont entrepreneurs, qui ont des employés et tout. Mais c'est l'histoire d'un type qui a monté une boîte exceptionnelle et qui s'appelait Zappos, qui vendait des chaussures en ligne, qui l'a revendu plus de 2 milliards à Amazon. Et l'histoire est fantastique. C'est un roman, il explique, enfin, il lui est arrivé, mais 1000 mésaventures. Et c'est passionnant. Et en fait, il a instauré un truc dans sa boîte, c'est la théorie du 2%. En fait, c'est si tout le monde, si tous les employés de son entreprise, toutes les semaines, investit 2% de son temps, donc 2% de son temps, en fait, c'est rien, c'est 10 minutes par semaine. Mais si tout le monde, chaque semaine, utilise 10 minutes pour améliorer le bien-vivre de l'entreprise, et ben en fait, au bout d'un an, deux ans, et ben en fait, tu deviens l'entreprise dans laquelle ça devient un bonheur de travailler, en fait. Et lui, ce livre a notamment été très connu parce que ça a été son entreprise a été élue plusieurs années de suite l'entreprise dans laquelle il faut travailler, dans laquelle le bien-être est parfait, quoi. Donc tu vois, tu peux adapter un peu le pouvoir des habitudes et le pouvoir de la répétition, et même si c'est tout petit, c'est hyper puissant, quoi. Si tu le répètes, c'est hyper puissant et tu peux l'adapter à plein de domaines. Donc c'est ça qui est assez fascinant. Et après, du coup, pour revenir vraiment à comment atteindre ses objectifs, on en parlait un petit peu plus en amont dans le podcast, mais se poser la question du pourquoi, quoi. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Je trouve ça mais tellement fort. Tu vois, je sais pas pour toi, mais moi quand j'ai commencé mon podcast, je l'ai écrit, quoi. J'ai écrit sur un bout de papier, OK, pourquoi je le fais? Pour apprendre, pour me faire un réseau, pour créer du contenu, pour pouvoir être en contact des champions. Et tu vois, et à chaque fois que j'ai un petit doute, à chaque fois que je perds un peu de motivation, et ben tout ce que j'ai écrit, et ben c'est sur un petit fichier Evernote, et je l'ai mis en plus à l'écrit dans mon carnet, donc je l'ai vraiment tout le temps. Et en fait, dès que j'ai un petit doute et dès que j'ai des moments un peu de où je tergiverse, ou des moments où j'ai un peu moins le moral, et ben en fait je rouvre ces fichiers là, je les lis et je me dis mais ouais, c'est pour ça que je le fais, en fait. Et quand je repense à ça, quand je repense à l'objectif final et quand je repense à pourquoi moi je le fais, et ben là ça me rebooste à fond, et c'est ça qui me permet d'y arriver et de continuer, quoi. Donc voilà, c'est mes deux petites astuces.
Ah bah c'est de bonnes astuces. D'ailleurs, écrire ses objectifs, je l'ai lu dans énormément de bouquins, je l'ai appliqué moi-même. Écrire ses objectifs et aussi, comme tu dis, écrire son pourquoi, son moteur, et le voir chaque jour, c'est une des manières aussi d'arriver plus facilement à son objectif. Je sais plus quelle étude avait montré que écrire son objectif te donne X fois plus de chances de l'atteindre, en fait.
Ouais, tu t'engages, ouais. Tu t'engages déjà, avec toi-même, donc.
Donc c'est déjà un bon début de faire ça quand tu veux atteindre je sais pas, quand tu veux te mettre au sport, quand tu veux atteindre tel succès, que tu considères tel succès dans telle activité, telle discipline, c'est bien de l'écrire. De mon côté, j'avais pas écrit mes why pour le podcast. Ils étaient tellement clairs dans ma tête que je me suis pas senti obligé de les écrire. Par contre, ce que j'ai écrit, c'est comment j'allais procéder à la chose, quoi. C'est que j'avais envie d'enregistrer tant d'épisodes, il fallait que je fasse j'utilise une espèce de programme de productivité basé sur des objectifs hebdomadaires, trimestriels, annuels, des choses comme ça, où en fait les uns viennent s'encastrer à l'intérieur des autres et qui te permet en fait d'avoir tout le temps tes objectifs à devoir atteindre par semaine, etc. Il y en a qui pourraient trouver ça hyper strict, tu vois, trop strict, mais en fait ça me permet une marge de liberté, et puis j'aime bien fonctionner comme ça. Mais avoir ces buts à atteindre régulièrement, les écrire par exemple, tiens, à la fin de la semaine j'aimerais avoir terminé ça, j'aimerais avoir mis en place ceci, j'aimerais avoir réfléchi à cela, et puis rien que le fait de cocher, des fois tu vois, à la fin le dimanche soir tu dis bon, ben alors qu'est-ce que c'est que j'en suis, moi, dans mes objectifs. Ben il y a un petit kiff aussi de se dire j'ai coché, j'ai atteint mon truc, quoi. Et en fait, si tu fais ça régulièrement, indéniablement, en fait, quelques 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, tu te dis bon, mais waouh, j'ai avancé, sans forcément t'en rendre compte. Et ça c'est hyper personnel, après, d'écrire exactement son objectif, son pourquoi. Moi, je l'ai pas écrit pour le podcast. Par contre, quand je me mets dans un truc, c'est peut-être ma faiblesse, c'est des trucs qui vont me jouer des tours, mais quand j'écris quand j'ai en tête un objectif, quand je me lance dans un projet, je suis tellement ancré dans l'habitude de le faire ou dans le process ou dans l'engagement en moi-même aussi de vouloir respecter ce que j'ai dit que j'allais faire et ce que je voulais faire, que des fois j'en oublie à penser au moteur. Tu vois,
ouais,
et, okay. Et ça peut t'arriver. Enfin, moi, ça peut m'arriver des fois de me dire, bon, ok, j'ai fait tout ça parce que je me suis tellement engagé, j'ai fait le bon ouvrier qui a établi toute la liste de tâches qu'il fallait pour accomplir ça. Le manager, il est content. Et puis des fois, le boss, il prend du recul, il se dit, bon, ok, on a fait tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que c'est toujours d'actualité dans notre moteur cette histoire? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois très bien, ouais. Bah moi c'est pour ça que je l'écris en fait, c'est pour ça que je veux être sûr de pas l'oublier. Je fais comme toi, tu vois, j'écris des plans d'action, tu vois, effectivement sur une semaine, sur 3 mois, ça dépend un peu. Je suis curieux de savoir un peu toi quelle méthode tu utilises, mais à chaque fois ce qui surplombe c'est effectivement le pourquoi, quoi. Pourquoi tu le fais, quel est le, et souvent aussi l'objectif un peu qui permettrait de dire est-ce que j'ai réussi à atteindre, est-ce que j'ai réussi à aller où je voulais aller, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Ouais,
c'est ça. Si tu te demandes ce que j'utilise, notamment c'est la méthode des 90 jours,
okay.
qui est une méthode de Stan Leloup de Marketing Manager. Je pense que les gens, ça fait plusieurs fois que je mentionne Stan Leloup, peut-être la deuxième fois d'ailleurs, je devrais le mentionner très souvent. C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré sur le côté productivité, contenu, marketing aussi, mais pas marketing, parce que tu sais, c'est un terme un peu galvaudé, ça peut être un peu connoté négativement, mais marketing dans le sens où savoir présenter les choses, savoir les mettre en valeur pour justement créer cette perception de valeur, mais pas pour baiser le monde, hein, je veux dire, pas pour arnaquer les gens, mais juste en fait, je veux dire, tu peux avoir quelque chose qui est intéressant, mais si tu le mets pas bien, si tu le présente pas bien, en fait c'est dommage parce que les gens ils vont y passer à côté. Donc Stan Leloup, tu vois, de Marketing Mania, pour les gens qui connaissent pas, qui avait fait aussi le podcast Nomad Digital, dont j'en avais discuté avec Théo de Fitness Peace il y a pas si longtemps, et ben il m'a beaucoup inspiré sur tout ça. Voilà, bon, si ça t'intéresse,
ouais,
la méthode,
ouais, il est brillantissime, Stan, hein. c'est quelqu'un, c'est un maniaque de travail, j'ai l'impression, mais c'est tout ce qu'il fait est assez brillant, et écoute, je suis pas étonné que tu consommes son contenu, parce que c'est vrai que tu vois, tu parlais de marketing versus valeur, bah je trouve que tu vois le podcast, je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est une martingale en fait, parce que tu apportes de la valeur pour toi, parce que tu rencontres des gens brillants, tu crées ton réseau, tu apportes de la valeur à tous les gens qui écoutent, parce que tu essayes de créer du contenu où les gens peuvent apprendre et ils peuvent en tirer des choses pour être une meilleure version d'eux-mêmes. Et en plus, tu apportes de la valeur à ton invité, parce que tu lui donnes un petit espace de parole, parce que tu lui permets de construire sa pensée, que tu le mets aussi en lumière aussi, parce que des fois, tu vois, les gens les connaissent pas leur travail, tu vois. Moi typiquement, j'ai écouté certains de tes invités, je les connaissais pas du tout, je les ai trouvés brillants, et du coup bah je suis allé regarder leur contenu sur internet, je suis allé regarder ce qu'ils faisaient, et maintenant tu vois je les connais, donc tu vois ça leur apporte aussi de la valeur un peu à tout le monde. Donc tu vois, je me dis où est-ce que tu t'es jamais demandé ça, toi, est-ce que il y a pas un endroit où y a la valeur est un peu négatif dans le podcast? J'ai l'impression que tout est positif pour tout le monde, quoi. Et lui il mise beaucoup là-dessus, quoi. Stan Leloup, c'est comment vraiment créer de la valeur et apporter de la valeur à ses clients et pas chercher à leur vendre, mais vraiment essayer de les aider et de construire quelque chose avec eux, quoi.
Et c'est vrai que le podcast pour ça est intéressant, parce qu'on se débarrasse un peu des fioritures qu'on pourrait retrouver, des fioritures d'apparence, en tout cas visuelles, qu'on pourrait retrouver sur YouTube, sur des sites, sur des blogs ou quoi, avec beaucoup de visuels. Bon, si on pense au marketing un peu mauvais, tu vois, avec des choses où on va te promettre, on va te montrer des voitures de luxe, des villas exceptionnelles pour ensuite te créer des émotions, et te faire visualiser des choses pour te créer des émotions pour ensuite te vendre des choses dont tu n'as pas nécessairement besoin. C'est pas un truc qu'on va forcément retrouver dans le podcast, tu vois, parce que, et comme tu dis, là nous on fait des podcasts longs, donc ça dure entre 1h, 1h30, 2h. On va dans des sujets. Si la personne n'est pas intéressée, elle va se barrer, quoi, tu vois. Et si ça se trouve, les gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par le surpasser ses limites et etc., ils sont déjà peut-être plus là. Et ceux qui sont là, c'est ceux qui trouvent intéressant la discussion et qui se disent, je trouve ça cool et voilà, c'est qu'ils y trouvent assez de valeur. Donc au final, un podcast intéressant qui est écouté, c'est un podcast qui forcément apporte de la valeur dans un sens.
Et, ouais, c'est vrai. Ouais.
Et justement, est-ce que toi, tu as des podcasts que tu écoutes régulièrement, des choses qui te, des émissions que tu adores, que tu recommandes?
Je peux t'en citer plein, comme si après tu piqueras un peu à droite à gauche en fonction de ce que tu veux. Moi, je suis tombé dans le podcast par la voie du business. Hein. Au début, c'est vrai que c'était un format qui était très effectivement très orienté sur la transmission de savoir, et du coup, bah là où la transmission de savoir est la plus pertinente, c'est côté business. Donc le premier que j'ai écouté, c'était comme je te disais, c'était Timothy Ferris, voilà, qui est l'auteur de la semaine de 4 heures.
Ouais. Le Tim Ferris Show.
Ouais, exactement, ouais. Exactement. Et bon, moi j'avais lu son livre effectivement quand il était sorti en français en 2012-2013, et j'avais tout de suite vu qu'il avait fait un podcast que je trouvais assez brillant, et j'aime beaucoup le format audio parce que ça me permet de consommer du contenu quand je cours, même maintenant quand tu fais du vélo, quand tu fais ta muscu, quand tu fais ta vaisselle, donc c'est vraiment. C'est un moment très rationnel, en fait, le podcast où tu peux apprendre pendant que tu fais autre chose, pendant que tu fais des tâches qui ont moins de valeur ajoutée, comme te déplacer, faire la vaisselle, peu importe, il y en a des dizaines. Mais du coup, voilà, j'ai commencé avec Tim Ferriss Show. Après, dans ce qu'on fait, qui ressemble beaucoup aux États-Unis, il y a Rich Roll Podcast qui est vraiment super sympa, que je recommande aussi. Après, j'ai une grosse aspiration aussi américaine, c'est Bill Simmons qui fait un podcast sur le sport, qui a récemment été racheté plusieurs dizaines de millions par Spotify. C'est d'ailleurs le podcast qui s'est fait racheter le plus cher, je pense. Et pourtant, il parle que de sport. Donc moi, ça m'inspire un peu de voir les types de formats qu'ils font. Après, sur le francophone, parce que je sais que les Français aiment quand même bien parler leur langue. écoute, moi j'aime beaucoup surtout tout ce qui est entrepreneurial. Je vais te dire, il y a j'aime beaucoup Génération Do It Yourself, j'aime beaucoup aussi Marketing Mania, j'aime beaucoup Grossmakers, Grossmakers, qui est un podcast avec des directeurs marketing de start-up, et comme c'était un peu mon expertise pendant un moment, bah c'est ce qui m'intéressait plus. Après, sur le domaine plus, pour revenir un peu à nos moutons et de la santé et de la santé et du sport, j'aime beaucoup ce que fait Étienne Bulidon avec et surtout la santé, et c'est hyper sympa. Et j'aime beaucoup aussi m'inspirer de formats un peu différents, tu vois. J'écoute un podcast qui me fait bien marrer, et ça s'appelle EPO, je sais pas si tu connais. C'est 5 copains qui se réunissent autour d'une table et qui racontent des grands événements sportifs avec beaucoup d'humour, beaucoup de décalage, et en fait, moi qui suis passionné d'histoire du sport, et ben c'est parfait pour me faire un peu ma culture du sport. Donc voilà, déjà j'en ai cité pas mal, donc y a de quoi faire.
Ok, ouais, c'est ça. Ouais, ce que tu as cité en francophone, je les écoute, et surtout la santé d'Étienne, il est extrêmement qualitatif. Si les gens ne connaissent pas encore, qu'ils aillent écouter quelques épisodes, ils verront un petit peu il est branché sport, enfin un petit peu moins que toi et moi peut-être. Il est plus, on va dire, sur des sujets généralistes de santé, puisqu'il a été avec des médecins généralistes, hein, il a été avec un dentiste ou un chirurgien dentiste. Il a fait des épisodes avec des sportifs aussi, mais j'encourage les gens à écouter ce qu'il fait, c'est super bien. J'écoute à peu près les mêmes choses aussi, hein. Après j'ai des podcasts un peu différents. Vlan, qui est un podcast un peu plus société, que je trouve pas mal, de Grégory Pouy, je sais pas si tu as entendu parler.
Ouais, je le connais bien. J'aime beaucoup Vlan, effectivement. Je l'écoute de manière très discontinue. Je suis pas un auditeur assidu de ce qu'il fait. Je vais plutôt écouter 3-4 épisodes d'un coup, et puis un mois après je vais en réécouter certains. Et écoute, j'ai la chance d'échanger un petit peu par email avec Grégory, donc c'est assez brillant ce qu'il fait, et je le trouve très bon, quoi.
Ah, il est très bon. Et tu parlais de Génération Do It Yourself, que moi j'ai découvert très très tard, qui est un des podcasts, on va dire, sur business, dev perso, enfin, il y a un petit peu de tout quand même dedans, mais je l'ai découvert très tard. C'est un des plus connus francophones sur ce domaine-là. Je sais pas dans quel domaine on pourrait classer affaires et business peut-être. Ouais. Mathieu Stéphany, qui est l'animateur du podcast Génération Do It Yourself, il a fait aussi un podcast secondaire qui est La Martingale. Alors je sais pas du tout si ça va intéresser les gens, si toi ça va si ça va t'intéresser particulièrement, sur les finances personnelles, comment améliorer ses finances personnelles, comment investir, etc. Il fait des épisodes avec des sur différents véhicules d'investissement avec des experts dans plusieurs domaines. Il a parlé de Bitcoin, il a parlé de d'investir dans les arbres, il a parlé de d'immobilier, plein de choses. Et ben c'est un des premiers podcasts qui parle francophone, je trouve, qui parle de d'investissement et de réflexion, d'éducation financière, que je recommande vraiment. Je trouve qu'il est excellent.
Ouais, ben je le recommande également. Ben pour la petite histoire, je connais Mathieu et il m'a beaucoup inspiré et il m'a beaucoup motivé à me lancer parce que c'était il était intervenant dans mon école, donc j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai été son premier auditeur, enfin un de ses premiers auditeurs. Et il venait de sortir son premier épisode quand il me l'avait dit. Donc ouais, je recommande ses contenus chaleureusement. Ouais, pareil pour la martingale. Ouais.
Bon, ben on a fait un bon tour. Je pense que les gens qui sont là, ils ont beaucoup de d'informations, beaucoup de pistes pour avoir du contenu intéressant dans plusieurs domaines. Hein. On n'a pas été que sur du sport. Peut-être pour passer sur un sujet complètement différent de ce qu'on parle maintenant là. Donc toi, tu m'as dit que tu avais pratiqué plusieurs sports et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu m'as dit que tu avais une blessure qui à un moment donné t'avait empêché de continuer à pratiquer dans les meilleures conditions. Et est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette blessure et comment tu t'en es sorti?
Ouais, bah, en fait c'était un peu particulier. Je sais pas si je vais utiliser le terme blessure, mais en tout cas j'ai eu des soucis de santé. J'ai fait des calculs rénaux en fait, et c'est assez fréquent sur les gens qui font des sports de longue distance, qui vont transpirer beaucoup, qui vont consommer beaucoup de sel, beaucoup de calcium.
Est-ce que tu faisais des coliques néphrétiques?
J'ai eu la chance à chaque fois d'avoir des interventions juste avant. Donc,
c'est considéré comme une des plus grosses douleurs en médecine. Ça, c'est un truc que j'avais retenu.
Ouais. Mais j'en ai fait des petites, tu vois. Et effectivement, ça te plie au lit, ça te met vraiment, vraiment mal. Ça, pour le coup, c'est vraiment hyper douloureux. J'ai eu la chance de pas avoir des coliques néphrétiques, on va dire, dangereuses. Mais ouais, de toute façon, tout ce qui tourne au système autour du système rénal et urinaire, mieux vaut éviter, quoi, parce que franchement je le déconseille aux gens. Ouais, j'ai eu des petits soucis par rapport à ça, et du coup je pouvais plus courir, je pouvais plus faire de la longue distance et transpirer énormément, avoir des grosses périodes de sudation trop intenses. Donc ça m'a un petit peu effectivement freiné avec le longue distance. C'est ça un peu qui m'a arrêté. Là aujourd'hui je suis soigné, donc je me suis remis à courir et remis un peu à faire du vélo, donc on verra, mais je suis tellement passionné en ce moment par la muscu et le crossfit que c'est difficile de combiner les deux, quoi.
Ouais, c'est sûr que c'est deux sports qui ne demandent pas du tout les mêmes filières énergétiques, ni même le même type d'effort. Ouais. Sinon, à part ça, à part ce petit souci de santé que tu as eu, t'as jamais eu, toi, de tendinite, d'élongation, de fracture?
J'ai une épaule gauche assez faible, et de toute façon, en fait, de base je pense que j'ai une posture et un dos assez fragile, enfin pas fragile mais en tout cas fragilisé, entre le tennis, qui est un sport qui te déséquilibre complètement parce que t'as un côté qui va se muscler fortement et l'autre pas du tout, surtout des muscles profonds en plus qui vont vraiment presque influencer sur l'ossature, quoi. Donc déjà je suis un peu tordu, tu vois, j'ai le bassin et les épaules un petit peu décalés, donc tout ce que je fais beaucoup d'étirements pour vraiment essayer de compenser tout ça. Beaucoup aussi, j'essaie de faire travailler beaucoup les muscles profonds, donc continuer à travailler avec de l'instabilité, travailler avec du gainage, faire aussi du statodynamique par exemple. Donc j'essaie vraiment de varier par rapport à ça, parce que je sais que avec mes antécédents sportifs, je peux pas trop forcer sur une filière en particulier, et j'essaie vraiment de varier et d'être complet. Après, au niveau tendinite, ouais, j'ai eu mon épaule qui a un peu souffert pendant un moment sur tous les mouvements de poussée. Et du coup là pareil, pas mal d'étirements. Et après, une des choses que j'ai pas mal modifié, c'est j'ai essayé d'avoir une alimentation beaucoup plus alcaline qu'avant, parce que j'avais lu en fait que avoir une alimentation assez acide, donc tout ce qui est protéines animales, tout ce qui est aussi céréales, et notamment à partir du blé, que ça pouvait avoir un effet assez acide sur le corps, et que ça avait une influence assez forte sur tout ce qui était tendinite. Et écoute, figure-toi que voilà, je suis devenu vegan pendant quelques mois et c'est fortement parti. Ça a même disparu en fait complètement. Donc là aujourd'hui, voilà, j'essaye de maîtriser mon alimentation pour faire un petit peu attention à ce genre de petits pépins. Alors je sais pas, c'est toi qui vas me dire, hein, c'est toi le spécialiste, si ça a un impact aussi colossal ou si c'est plutôt l'effet placebo. Mais en tout cas, le fait que vraiment je change mon alimentation, ça avait eu alors dans la série de d'auto-traitement que je me faisais, ça avait plutôt bien fonctionné, quoi.
Ouais, alors bon, je suis pas complètement spécialiste nutrition diététique, mais est-ce qu'il y a du placebo? Est-ce que ça a un réel impact? Je pense qu'il y a toujours un peu des deux, après un pourcentage qui peuvent différer, mais clairement si tu diminues tout ce qui est acidification du corps avec l'alimentation, tu permets à ton organisme de mieux récupérer, et puis c'est un truc connu ça, les tendinites, il y a une grosse composante d'acidification, bon, si on peut dire ça. Donc l'origine des aliments acidifiants. Alors c'est ça qu'il faut faire attention des fois. Ça peut être confondu entre un élément acide et acidifiant. Par exemple, le citron est acide. Ouais, c'est-à-dire quand tu le manges, c'est un truc acide, mais par contre, il est acidifiant. C'est-à-dire que pour ton organisme, il va basifier. Donc, j'imagine qu'en devenant vegan, t'as enlevé tout ce qui était source de protéines animales. Ouais. T'as enlevé peut-être, comme tu le dis, des céréales, donc ça a dû sans aucun doute avoir un effet bénéfique sur ta récupération, sur ta santé, sur tes tendons, tes muscles, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher des études précises pour en avoir conscience. Tu l'as expérimenté toi-même. Voilà, quand tu manges beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, quand tu diminues peut-être un peu l'apport de viande par excès, si t'as pas forcément envie de devenir vegan, effectivement, tu ne peux que t'en porter mieux de toute façon.
Ouais, bah je pense que c'est assez évident, hein, de même, tu vois, là je parle avec beaucoup de sportifs de haut niveau et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui essayent de limiter leur consommation de viande rouge notamment, de lait aussi, parce qu'effectivement ça a un impact effectivement sur l'acidité du corps, quoi. Et ouais, pour revenir un petit peu à ta question, ça me fait penser que ouais, tous les matins aussi je me prends un citron pressé, tu vois. Je sais que c'est hyper alcalin et du coup en plus ça nettoie un petit peu les toxines dans l'estomac. Je sais pas si là aussi si tout est avéré, mais en tout cas moi le matin ça me met un coup de fouet, ça remplace mon café, tu vois, comparé au café qui est hyper acidifiant. Donc citron pressé, hyper bonne recommandation. Et douche gelée aussi. Douche gelée, ça c'est un truc. Alors je sais pas, ça m'a pas soigné des blessures, mais ça me met dans un super bon mindset. Et depuis que je prends des douches froides, je tombe plus malade, tu vois. Et ça c'était une des composantes que j'avais, un des problèmes que j'avais moi au niveau de ma performance sportive, c'était que à toutes les saisons je me chopais le petit rhume ou la petite grippe qui va bien, tu vois, ou des fois la petite gastro, et tu vois il y avait pas un trimestre ou un semestre sans lequel je chope la petite épidémie du moment. Et écoute, ça fait un peu plus d'un an et demi que je fais douche froide tous les matins. Donc je ne connais plus l'eau chaude, tu vois, je ne sais plus ce que c'est. Et écoute, ça, il y a des études scientifiques qui sont faites sur le pouvoir du froid et tout, mais en tout cas ça, ça a été, enfin pour le coup ça, j'en suis sûr que ça vient de ça, et ça a été hyper hyper bénéfique pour moi, quoi. Donc c'est un peu, ça peut paraître un petit peu méthode de chaman ou méthode un peu de développement personnel, tu vois, mais en tout cas sur moi ça a marché. Je sais pas si ça marche sur tout le monde, mais en tout cas sur moi ça a été assez puissant comme effet.
Eh ben, j'ai enregistré un épisode avec Steve Compagnon, qui est un spécialiste de la récupération, ouais. Où on parlait justement des douches froides. Je l'ai enregistré hier, au moment où on parle là actuellement. C'était jeudi, c'était hier que j'ai enregistré l'épisode, qui normalement sera disponible juste avant celui qu'on enregistre maintenant. Donc si les gens sont intéressés, ça sera l'épisode normalement 23, si je me trompe pas, où on parle effectivement de froid, de chaud, de récupération physique, les meilleurs moyens qu'il y a, voilà. toute petite auto-promo, bon, enfin, c'était pour rebondir. Mais on va dire que je vais pas révéler. c'est évident. Il y a pas de secret, mais je vais pas complètement révéler si c'est un mythe, une réalité, si le froid est bon. Voilà, bon, okay. Vous découvrirez dans l'épisode, même si tout le monde s'en doute un peu. Peut-être j'avais une dernière question avant de terminer avec mes trois questionnements de fin. Est-ce que toi tu consultes régulièrement des spécialistes ou des thérapeutes justement pour t'aider au mieux à être en forme, parce que t'as fait quand même pas mal de modifications entre l'alimentation, les douches froides, etc. Est-ce que t'es allé pousser jusqu'à consulter régulièrement des thérapeutes même si t'avais pas nécessairement de douleur?
Ouais. Bah en fait je suis assez passionné. Hein. Je pense que les auditeurs et toi aussi l'auront compris. Je suis assez passionné par ce qui se passe dans notre corps humain, de comprendre un peu comment on fonctionne. Donc déjà je fais beaucoup de recherches en amont quand même, et j'ai une démarche assez active avec les spécialistes où je m'intéresse, je pose des questions, j'essaie de comprendre. J'ai besoin de sortir d'un rendez-vous avec un spécialiste en ayant appris des choses et en ayant des petits tips pour mon quotidien. Donc je vois très souvent un ami qui est ostéo, qui me remet souvent un peu le dos en place et qui m'apprend pas mal de choses et avec qui j'essaie de vraiment de comprendre un peu comment est-ce que je peux rétablir un peu le mon équilibre. Parce que je souffre hein, encore un peu de, ben, je souffre. C'est peut-être le terme est un peu fort, mais je sens que je pâtis encore un peu de ces 10 années de tennis quand j'étais plus jeune. Et en tout cas, ouais, moi j'adore aller voir des praticiens qui m'apprennent des choses pour comprendre, pour aller chercher des conseils, des infos, des outils. C'est quelque chose que je fais hyper souvent. J'ai vu aussi des posturologues, des podologues. J'aime bien l'idée un peu que tout part des pieds, tout part de la posture. J'aime beaucoup cette mentalité, quoi.
Et là où t'as raison de le rappeler, c'était un conseil qu'on avait donné, je sais plus sur quel épisode, c'était peut-être avec David Ferreira, un conseil pour les thérapeutes, que ce soit ostéo, chiro, essayez au maximum d'expliquer ce que vous faites et ce que vous avez retrouvé chez la personne, chez votre patient, qui comprennent en fait. Alors il y en a qui sont plus ou moins intéressés par ce qui se passe dans leur corps, ils veulent absolument tout savoir, ils posent plein de questions, et puis il y en a, bon, ils posent pas trop de questions, mais tu vois, t'es un témoignage supplémentaire qui montre que tu aimes qu'on t'explique les choses, tu aimes comprendre et sortir d'une consultation, que ça soit avec un chiro, posturo, ostéo, en ayant compris et que la personne a pris le temps de t'expliquer ce qu'elle a retrouvé et quel a été le but de son traitement.
Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'il faut être proactif, quoi. Faut pas s'attendre à des méthodes miracles. Et tu vois, c'est comme les petites habitudes, tu vois. Un ostéo, un kiné, ok, peut-être ils peuvent te remettre un peu en place, mais si toi derrière tu te tiens pas droit sur ta chaise alors que tu passes 10 heures par jour et que t'achètes un matelas tout pourri et que, du coup que tu dors sur une planche en bois, tu vois, 10 heures par jour, ben tu vois forcément les 30 minutes ou l'heure que tu vas passer avec un ostéo tous les mois ou tous les trimestres, ben ça change la donne, ça aide, mais tu vois le vrai fond c'est les petites habitudes, les petites choses. Donc je pense qu'il faut être très proactif avec les spécialistes et s'intéresser à ce qu'ils peuvent nous apprendre et un peu essayer de comprendre la démarche et de pouvoir les accompagner par rapport à ça, quoi.
Excellent. Bon, ben moi pour terminer chaque épisode, j'aime bien poser trois petites questions qui sont très régulièrement les mêmes. Pour ceux d'ailleurs qui n'avaient pas compris, c'est toujours inspiré de Stan Leloup avec son podcast Marketing Mania, où je m'étais dit que c'était, je trouvais ça plutôt cool de terminer toujours avec trois petites questions qui reviendraient à chaque épisode. J'ai rien inventé. Donc première question, quel est toi le meilleur conseil que tu donneras à quelqu'un qui voudrait débuter une activité physique, hormis tous les bons messages et les bonnes astuces qu'on a fait passer au cours de l'épisode, la première chose que tu conseillerais?
Écoute, je vais en donner deux. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est trouver son pourquoi, pour trouver un maximum de motivation à l'intérieur de soi. Vraiment, voilà, si vous voulez vous mettre du sport, c'est pourquoi? C'est pour perdre du poids, c'est pour avoir une meilleure santé, pour il y a plein de raisons, mais il faut trouver sa propre raison. C'est très personnel comme quête, mais c'est hyper important. Et la deuxième que je pourrais donner, c'est vraiment apprendre, essayer de pas négliger la partie théorique et d'apprendre, notamment pour tous ceux qui vont se jeter un peu sur les sports assez faciles d'accès, donc comme la musculation et la course à pied. apprenez vraiment, renseignez-vous, parce que on peut se flinguer dans une salle de musculation si on fait mal les choses. On peut se détruire à vie et c'est pas le but de faire du sport. Le but de faire du sport, c'est d'être en forme le plus longtemps possible, je pense, en tout cas. Et donc voilà, c'est les deux conseils que je donnerais, vraiment pas négliger la théorie, apprendre et trouver son pourquoi.
Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans ton parcours qui t'a servi de référence ?
J'en ai eu beaucoup, ouais, j'en ai eu vraiment beaucoup. Après, dans les gens que j'ai eu la chance de rencontrer, dernièrement, quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Alors, je sais pas si c'est un mentor, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'inspire, qui me pose les bonnes questions et qui me pousse dans mes retranchements. C'est Rudy Koya que t'as interviewé. J'ai eu la chance d'aller chez lui pendant une dizaine de jours et de vraiment partager des moments hyper intéressants avec lui. Alors tu vois, pourtant on est au même, tu vois, je pense qu'on est au même niveau de bonheur tous les deux. On n'est plus à plaindre, on a sécurisé financièrement des choses, on a une activité, on a une petite notoriété dans chacun de nos domaines respectifs. Mais tu vois, il m'impressionne par sa discipline, par sa rigueur et par ses petites habitudes, tu vois. Lui, il se lève tous les matins et il écrit un article de blog tous les matins et il est capable de le faire pendant un an, quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Des mentors que j'ai pas forcément eu la chance de rencontrer, Tim Ferriss, on l'a mentionné, Mathieu Stéphanie, pareil, c'est quelqu'un qui m'inspire. Et déjà, c'est pas mal, on a cité beaucoup de noms, je pense, pendant cette interview.
Top. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que t'aimes bien recommander ?
Écoute, c'est hyper dur d'en choisir un, mais je vais te dire les trois que j'ai lus en 2019 qui m'ont mis une claque. En plus, on les a tous cités. Les lois de la nature humaine de Robert Greene, si vous voulez comprendre comment fonctionne l'être humain, comment est-ce qu'il réagit, pourquoi est-ce qu'il est rationnel, pourquoi des fois il est rationnel. C'est vraiment passionnant pour aussi être plus à l'aise en société. Sapiens, pour moi, c'est plus pour comprendre, pour prendre du recul avec tout ce qui se passe, pour aussi peut-être trouver mes valeurs, ma place sur Terre. Je trouve que c'est passionnant pour les passionnés un peu d'histoire, c'est magnifique. Et pour l'entrepreneuriat, Delivering Happiness, c'est une claque et en même temps un modèle à suivre, parce que c'est quelqu'un qui a pas forcément voulu gagner de l'argent, c'est quelqu'un qui a voulu rendre heureux ses salariés et ses clients, et je pense que c'est la première mission de tout entrepreneur, quoi.
Sur les trois que tu as indiqué, j'en ai lu qu'un qui est Sapiens
c'est Yuval Noah Harari, et je triche parce que je l'ai juste devant les yeux dans la bibliothèque.
OK, c'est pas grave. T'as le droit de tricher. Je mettrai les liens, enfin les liens, non pas, pas nécessairement les liens, mais en tout cas les références des trois livres dans les notes de l'épisode, comme ça si vous savez pas comment ça s'écrit, vous pourrez les regarder. Donc moi j'en ai lu qu'un sur les trois que tu as recommandé, donc qui est Sapiens, effectivement, je le recommande à tout le monde, ne serait-ce que pour mieux comprendre, peut-être de savoir d'où on vient, comment les choses se sont l'humain a progressivement évolué. Tout à l'heure tu en parlais sur le fait de que l'humain a toujours voulu conquérir, en dehors du fait que il a toujours voulu aussi rester dans sa zone de confort. C'est très contradictoire, hein, dit comme ça, mais ouais. mais c'est hyper intéressant. J'avais adoré ce livre. Tant que j'y suis, je peux recommander moi aussi la Homo Deus, qui est la suite dans un sens de Sapiens, qui est plus tourné vers l'avenir, vers le futur, des réflexions sur les choses qui vont arriver peut-être plus vite qu'on ne le pense, qui est très intéressant, un peu moins peut-être concret, parce qu'on voilà, il y a des choses avec les ordinateurs, la technologie, l'intelligence artificielle, mais c'est très intéressant. Je sais pas si tu l'as lu toi-même, Homo Deus.
Je l'ai dans ma bibliothèque, mais comme tu l'as pu l'entendre, je lis beaucoup et en ce moment, depuis que je suis papa, je lis un petit peu moins. Mais ouais, je le lirai sans aucun doute parce que j'adore le style littéraire de l'auteur qui est vraiment un formidable écrivain et un formidable anthropologue, quoi.
Si les gens ils veulent en apprendre plus sur toi, qu'ils veulent te retrouver sur les réseaux ou peut-être prendre contact avec toi pour te poser des questions, où c'est qu'ils peuvent le faire, où c'est qu'ils peuvent te retrouver ?
Écoutez, si jamais ils s'intéressent déjà aux podcasts extraterriens, s'ils aiment bien les podcasts, peut-être le meilleur moyen de c'est d'aller écouter. Et puis il y a le compte Instagram aussi que j'anime assez plutôt bien. Donc le compte, il me semble que c'est extraterrien.podcast. Voilà. Et puis après, si c'est plus professionnel ou plus à titre personnel, je suis très très disponible et très réactif sur LinkedIn. Barthélémy Fent, et c'est avec grand plaisir. Généralement, je réponds à tout le monde sous deux ou trois jours, quoi.
Bah écoute, ça a été, j'ai passé un super moment à discuter avec toi là au cours de cet épisode. J'espère que les auditeurs, ils auront apprécié également. Je te remercie vraiment d'être passé sur le podcast, d'avoir accepté l'invitation. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mis à part merci à toi pour ton
temps. Écoute, ouais, merci beaucoup. Déjà, c'était un très grand plaisir, effectivement, plaisir partagé pour cette heure et demie passée ensemble. Et bravo pour tout ce que tu fais. C'était presque un honneur de passer parce que j'ai le niveau des intervenants à chaque fois est très élevé. Donc j'ai essayé de relever la barre tant bien que mal. Voilà, j'espère que ça aura plu. Et en tout cas, voilà, merci pour ton travail. C'est top ce que tu fais.
Ouais, bon, ben moi de mon côté, je veux dire que c'était un honneur de te recevoir et c'est vrai en plus puisque voilà, moi j'ai été plutôt agréablement surpris d'avoir rapidement ta réponse concernant l'invitation sur ce podcast. Donc ouais, non, c'est un honneur pour moi aussi. Bon, on va arrêter tous ces salavalec. Je te remercie, ouais. Je te remercie d'être passé, puis je te dis peut-être à très bientôt pour un prochain épisode.
Salut Jérôme.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'ai vraiment passé un excellent moment avec Bart sur des sujets que j'ai trouvé passionnants, comme vous avez pu l'entendre. Si vous aussi vous avez apprécié cet épisode et que vous voulez me faire savoir, que vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast, vous pouvez lui mettre une évaluation de 5 étoiles sur iTunes ou l'application Apple Podcast de l'iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez essayer de emprunter celui de votre meilleur ami. N'hésitez pas à laisser avec cette évaluation un petit avis de quelques lignes pour dire ce que vous appréciez sur le podcast et en quoi vous pourriez le recommander. D'ailleurs, si ces discussions autour de la performance, du désir de se dépasser, de se surpasser vous a inspiré, vous pouvez aussi faire une publication ou une story en mentionnant le podcast pour ceux qui ont Instagram, ou l'envoyer directement à quelqu'un qui vous est proche pour le motiver, pour lui donner envie de se dépasser et lui faire découvrir en même temps l'émission qui est biomécanique. Ça me permet de mon côté de faire grossir l'audience du podcast pour qu'il y ait de plus en plus d'épisodes, de plus en plus d'invités et de discussions aussi enrichissantes que celles d'aujourd'hui. Pour vous inscrire à l'aide biomécanique, premier lien dans les notes, j'en ai parlé au début de l'épisode, je ne vais pas y revenir dessus. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller faire un tour sur la page d'inscription biomecaniquepodcast.com/lettres pour voir de quoi il s'agit et rejoindre la communauté biomécanique si le cœur vous en dit. Voilà. Très bonne semaine à tous et à vous les plus fidèles auditeurs qui sont encore avec moi jusqu'à la toute fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Biomécanique. Ciao.